Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Et bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis avec deux experts, comme d'habitude, pour répondre à vos questions et vous êtes nombreux à nous en poser sur le Facebook, le LinkedIn, l'Instagram, le Twitter aussi, radio.imof. Allez-y, hein, continuez à nous poser vos questions, on vous lit tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés sur le plateau deux experts. Tout d'abord, Quentin Romet, président et cofondateur de Home Unity.
Bonjour Bérénice.
Bonjour. Et Loïc Guinchard, directeur commercial de Build Invest. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors déjà, vous allez tous les deux nous présenter rapidement ce que vous faites, en fait, tout simplement. Puis après, on va répondre ensemble à des questions d'auditeurs. Alors Quentin Romet, homeunity.com, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une société que j'ai eu la chance de cofonder en 2014, donc ouais. Il y a maintenant 7 ans, avec l'un de mes amis d'école, Arnaud Devergy, qui aujourd'hui reprend une société de promotion immobilière qui s'appelle Pierre Promotion et Charles Tétot. On a créé cette société, en fait, pour financer les fonds propres ou quasi-fonds propres des opérateurs immobiliers.
D'accord.
Donc, on leur apporte généralement entre 500 000 euros jusqu'à 8 millions d'euros par opération. Donc ça, c'était la société de base qui s'appelait Home Unity. Puis la plateforme homeunity.com a continué de se développer. Et on a lancé l'année dernière une nouvelle société qui s'appelle Home Unity Patrimoine, qui a le statut de conseiller en investissement financier et qui propose à nos investisseurs, donc qui vont venir investir dans les fonds propres des promoteurs immobiliers, aussi de pouvoir investir soit dans des lots neufs dans le but de défiscaliser, mais aussi dans des SCPI qu'on propose sur la plateforme où on en a sélectionné une petite dizaine sur les 180 existantes. Donc comme ça, sur homeunity.com, il y a un vrai panorama pour les investisseurs particuliers, professionnels ou institutionnels de pouvoir investir dans différents types d'immobilier.
Très bien. Et bien justement, la défiscalisation, on va en parler parce qu'on a reçu plein de questions à ce sujet et avec notre autre expert aussi, Loïc Guinchard. Alors, directeur commercial de Build Invest, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?
Alors, Build Invest est une maison qui n'a... 7 ans comme celle de Quentin, mais on a eu 50 ans l'année dernière. On aurait pu fêter notre cinquantenaire en juillet 2020 si la Covid ne nous avait pas perturbé. On a 4 activités principales. La première que je représente aujourd'hui, c'est de la rénovation en cœur de ville, on va dire de bâtiments de prestige, en classe d'actifs Malraux, monuments historiques, déficit foncier, puis aujourd'hui de Normandie. Et les deuxièmes activités, c'est que souvent, quand on a des immeubles, on garde les pieds d'immeubles pour l'immobilier commercial. Et on a une grosse foncière hôtelière avec des hôtels de plutôt classés 5 étoiles ou à luxe. Et c'est une activité dont je ne m'occupe pas, mais on a des passerelles parfois en immobilier, en hôtellerie, puisqu'on gère à peu près 600 à 700 chambres d'hôtel.
D'accord.
Oui. Donc, activité très impactée depuis un an et demi.
Oui, j'imagine. Mais qui repart, là ?
Qui repart, oui. On est rouvert. Enfin, ça dépend des sites, hein, parce qu'on est aux Antilles, on est en Afrique, on est en Espagne.
Ah oui, donc dans certains pays,
c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué aux Antilles.
D'accord. Bon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Quentin. Est-ce qu'on peut emprunter, c'est un auditeur qui nous demande ça, est-ce qu'on peut emprunter aussi facilement pour un appart que pour des SCPI ?
Alors, ça va beaucoup dépendre à chaque fois dans le monde de l'investissement et de l'endettement de la personne qui souhaite s'endetter en tant que telle. Un particulier, je dis n'importe quoi, un homme de 30 ans célibataire, ou un couple de 50 ans déjà endetté va pas avoir forcément les mêmes réponses de ses créanciers, donc des banques qui vont les octroyer. J'aurais tendance à dire, pour faire de l'investissement locatif en tant que tel, ça va être potentiellement plus simple parce que le banquier va plus avoir l'habitude, le type de garantie derrière va aussi être un type de garantie bien à part. Sur la SCPI, sujet qu'on connaît bien, en fait, c'est aussi une question d'interlocuteur et d'accompagnement. Aujourd'hui, on n'a pas de mal à accompagner différents types de profils pour s'endetter pour de la SCPI. Au lieu d'acheter au comptant, ils vont mettre 10 ou 20 000 euros d'apport et réussir à lever 50, 60 000, 80 000 euros de dette. Ça dépend vraiment de quel SCPI on va parler et de quel emprunteur derrière. Donc j'ai tendance à dire investissement physique en direct, c'est peut-être un peu plus simple que la SCPI, mais pour autant, c'est une question d'interlocuteur, de réseau. Il faut aller voir des experts, des personnes qui ont une bonne connexion pour pouvoir le faire.
Donc ça dépend, il faut s'adresser aux bonnes personnes en fait.
Tout à fait, et ensuite dans les SCPI aussi, il faut voir, est-ce que c'est une SCPI qui est très récente ? Généralement, les banques ont plus de mal à suivre dans les jeunes sens, SCPI ouais. parce qu'il n'y a pas encore de track record. Pour autant, il y en a qui se lancent et donc qui sont bien positionnés compte tenu de la crise qu'on vient de connaître sanitaire. Ça va être plus simple. Nous, je dis n'importe quoi, Omnity, on a été racheté par une société qui s'appelle Tikeo Capital, une société de gestion qui a un peu plus de 30 milliards d'euros sous gestion. Ils ont racheté une société de gestion qui s'appelle Sofidy, qui a plusieurs SCPI et dont les premières ont été créées en 1987. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller s'endetter sur ce genre de SCPI et les banques sont plus à même de vous accompagner que sur des SCPI un peu plus jeunes qui doivent encore faire leurs preuves.
Du coup, on a c'est plus favorable.
Exactement. Sur celles qui ont un track record et un historique un peu plus ancien, ça va être plus facile. Aujourd'hui, ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est que malgré l'année qu'on vient de passer et de vivre, les crédits bancaires ne sont pas du tout bloqués. On peut continuer de s'endetter. Les banques sont toujours quand même assez réactives. Les taux ont un petit peu augmenté, mais ça reste
très
à la
marge. C'est très léger, oui.
Exactement. Si on s'intéresse aux 10 ou 15 dernières années, ça reste des taux ridiculement bas, entre guillemets. Donc, ça reste toujours une bonne période pour aller s'endetter et investir.
Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est le moment pour investir. Alors, une question pour vous, Loïc. Est-ce qu'il faut déjà avoir sa résidence principale pour faire du Malraux ?
Non, pas forcément.
Alors, peut-être déjà rappeler ce que c'est que le Malraux.
Alors, le Malraux, c'est quoi ? C'est une loi qui date de 62, qui fait allusion au ministre de la Culture de l'époque et qui était là, si vous voulez, pour protéger ce qui est aujourd'hui dans l'air du temps, les cœurs de ville, la rénovation par rapport à l'après-guerre, à l'état des immeubles et des centres-villes d'après-guerre. Alors, le Malraux, c'est un périmètre dans une ville. Et donc il y a certaines villes qui ont ce périmètre et après vous avez deux statuts de périmètre, des statuts de périmètre qui donnent ce qu'on appelle un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui va générer une grosse aide à l'investisseur sur la part des travaux. Parce qu'en Malraux c'est quoi ? C'est un bout de foncier qui est un appartement en l'état, on va dire un peu délabré, et puis un contrat de travaux qui est en parallèle. Et la réduction d'impôt, la défiscalisation porte sur la part des travaux que l'état va accompagner l'investisseur. Le monument historique, pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, par contre, c'est des immeubles. On n'est pas dans la notion de périmètre et ce n'est pas du tout la même classe d'actifs. Donc le Malraux, il couvre toute la France, certaines villes, certains périmètres, avec des immeubles qui sont plus ou moins accompagnés dans la rénovation pour l'investisseur X ou Y. Donc pour répondre à votre question, non. On peut être... le Malraux, bien évidemment, 90% des investisseurs veulent... peuvent faire un premier investissement, mais ça peut être après un investissement classique en neuf ou pas. Mais ça s'adresse de toute façon à une certaine typologie d'investisseurs qui ont un revenu relativement important.
Oui, relativement important.
Et qui sont fortement imposés.
D'accord. Oui, pour permettre de défiscaliser.
Tout à fait.
Mais pour les habitants de Paris, par exemple, les personnes, parce qu'il y en a, qui n'ont pas envie d'acheter pour l'instant leur résidence principale, qui préfèrent être locataires, peuvent faire quand même du Malraux, c'est possible.
Alors, pas tout à fait, parce que le Malraux, si vous voulez, est soumis à une obligation locative. Donc, quand vous faites du Malraux, vous avez un locataire pour 9 ans. Parce que Bercy et l'État ne vont pas vous accompagner dans le financement de vos travaux et votre réduction. Voilà. Donc vous avez une obligation locative de 9 ans. Et pour revenir et rebondir ce que vous dites sur Paris, il y a deux périmètres à Paris qui sont éligibles. C'est une partie du 7e et une partie du Marais. Et aujourd'hui, de toute façon, on est arrivé à des prix stratosphériques qui font qu'il n'y a plus de rendement, il n'y a surtout pas de produit. Nous, les derniers immeubles que nous avons faits dans le Marais sont montés à des prix qui étaient relativement indécents, pour employer un terme pudique. Donc aujourd'hui, le Malraux se développe surtout dans des grandes métropoles régionales.
Oui, mais rien ne nous empêche d'acheter si on habite à Paris, on est locataire à Paris, rien ne nous empêche d'investir dans une autre ville.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est simplement, le stock parisien est très faible aujourd'hui.
Oui.
Il existe théoriquement, puisque les zones géographiques du 7e et du 3e existent. Par contre, le potentiel d'achat et de rénovation est très très faible, puisque c'est quand même des quartiers qui sont fortement investis. Et c'est des quartiers qui sont internationalisés. Aujourd'hui, c'est plus un marché national, c'est plus un marché parisien, c'est surtout un marché international.
Et je rebondis sur votre question, mais c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, après tout dépend de la classe d'actifs, mais si je prends un exemple type encore du jeune actif de 25 ou 30-35 ans qui va être à Paris, il n'aura pas forcément les moyens d'acheter à Paris étant donné que Paris, les prix au mètre carré sont très élevés et il va souvent s'intéresser pour aller faire, pourquoi pas du Malraux, pourquoi pas du Pinel, pourquoi pas de l'investissement locatif dans des villes de province.
En province, ouais,
là, c'est beaucoup plus accessible. Et pareil, ouais, il ne va pas forcément acheter son bien cash, entre guillemets, avec son épargne disponible, mais avoir au courant un endettement ou autre.
Bien sûr.
Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans le contexte actuel.
Bien sûr. Tiens, une question pour vous, justement, Quentin. Entre 30 et 40 ans, là, on parle, quel est le meilleur investissement?
C'est presque une colle, ça.
Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients?
Non, moi, j'aurais tendance à dire, et c'est un peu notre... on a commencé par là avec Omunity.com, où on a proposé du crowdfunding immobilier. Donc, le ticket d'entrée est très faible. C'est 1 000 euros. Les gens peuvent investir 1 000, 10 000, 100 000 euros selon leurs besoins.
Ça commence à 1 000 euros chez vous?
Tout à fait. Ça commence à 1 000 euros. C'est des obligations de 1 000 euros. Les gens investissent sur du court terme, 18 à 24 mois. Les rendements varient entre 8 et 10% annuels. Donc, c'est des rendements plutôt élevés, mais il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Donc, c'est un investissement dans l'immobilier, mais risqué. Ça, c'est une certitude. Après, bon.
De toute façon, dès qu'on veut du rendement, il y a plus de risques.
Il y a un
forcément.
Risque qui va avec. Les taux de défaut sont très faibles aujourd'hui. Nous, on n'en a pas connu en 7 ans, mais d'autres plateformes en ont. Et le marché en aura. Et nous, Omunity, on en aura un jour, c'est certain. Donc, ça, j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, si on prend cet exemple. Mais je mettrai à condition que cette personne ait éventuellement déjà fait l'acte d'aller voir une banque pour s'endetter, pour faire un premier investissement et pour faire de l'effet de levier. Aujourd'hui, le coût de la dette est historiquement bas. Je pense que Loïc aura peut-être une réponse assez différente si on lui avait posé cette question il y a 20 ans. Peut-être qu'on allait moins facilement voir sa banque.
Alors, les taux n'étaient pas les mêmes.
C'était pas les mêmes, donc c'était des stratégies d'investissement différentes. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, le particulier qui a entre 30 et 40 ans, s'il a l'occasion d'acheter sa résidence principale, pourquoi pas? Mais à Paris, on vient de le dire, ça peut être compliqué compte tenu de certains prix stratosphériques dans certains arrondissements. Bon, donc s'il paye pas mal d'impositions, du Malraux, du Pinel, ça peut être une alternative. S'il cherche des SCPI, il y a des SCPI de rendement qui existent. Donc pareil, d'aller s'intéresser à cette dernière. Il y a des SCPI à thématiques. Sur la santé, je pense que c'est des choses qui parlent, sur le tertiaire, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend encore une fois du profil. Pourquoi pas aller faire de l'effet de levier pour un premier investissement? Si vous avez déjà investi, pourquoi pas investir en cash dans du crowdfunding immobilier, entre autres.
D'accord. Vous êtes d'accord, Loïc?
Par rapport à l'analyse de Quentin, oui, tout à fait. Je veux dire, plus l'investisseur est jeune, plus le ticket d'entrée peut être adapté à sa capacité. Et plus c'est des seniors installés dans la vie, et surtout s'ils ont fait l'acquisition de leur résidence principale, ils peuvent aller en diversification sur du neuf, comme en Pinel, ou en Malraux, ou en monument historique. C'est une question de surface, d'avancer dans la vie. Bien qu'on ait beaucoup de jeunes, nous, qui investissent en Malraux, dans des villes moyennes, parce qu'ils sont amoureux de la belle pierre.
Oui. Et ça rassure en même temps la belle pierre.
Oui, c'est ça. Puis l'emplacement. Et puis, on est dans une sociologie depuis 4-5 ans. La loi de Normandie, d'ailleurs, en est l'illustration récente.
Justement, la question, ça va être là-dessus.
Réinvestir les cœurs de ville, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'ont fait les élus et nos aînés pendant 40 ans, c'est-à-dire vider les centres-villes, mettre tout le monde dans sa petite maison avec son petit portail et sa petite piscine.
Et son petit chien.
Voilà. Et aujourd'hui, on voit deux catégories. Les jeunes qui réinvestissent les centres-villes qui deviennent actifs. Et il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas que Canas-Saint-Martin dans la vie. Mais surtout même des seniors qui vendent leur propriété, qui vendent leur maison et qui reviennent en centre-ville. Vous savez, la notion de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire je fais tout à pied, mon caddie, mon vélo, et j'arrive à faire mes courses et avoir une librairie et pouvoir vivre dans un appartement fonctionnel, surtout quand il est rénové en ancien.
Et je suis heureux, j'ai la banane. Alors, j'ai la prochaine question. On en parle là. À qui s'adresse un auditeur qui demande ça? À qui s'adresse véritablement Malraux, les investissements Malraux de Normandie et monuments historiques? Alors peut-être rappeler ce que sont chacun. Et après, à qui s'adresse-t-il? Quel profil?
Alors, Malraux et de Normandie, c'est la réduction d'impôts. Pour faire simple, c'est comme le Pinel. Vous allez avoir l'investissement global, une part de réduction d'impôts annuelle pendant une durée, on va dire 9 ans, qui est la durée moyenne, par rapport à une obligation locative de X années suivant la réduction d'impôts. Le monument historique, c'est un affolement global du revenu global. Donc c'est vraiment un outil de destruction massive de revenu global. C'est-à-dire que si vous faites 500 000 euros de travaux dans un monument historique et que vous avez un revenu annuel de 500 000 euros, vous avez zéro de revenu. Donc ça s'adresse, pour répondre à votre vraie question, à des segments de population, comme on le disait à l'instant, qui sont très très différents. À chaque âge correspond son investissement, à chaque type de revenu convient son investissement. Donc le Malraux et le de Normandie est un investissement équivalent au Pinel, mais en centre-ville. Le Pinel est plus en périphérie, il y a très peu de Pinel en centre-ville et il y a très peu de Pinel accessible en centre-ville parce que, pareil, le prix du mètre carré est devenu stratosphérique. Ouais. Donc le Pinel de Normandie, périphérie, centre-ville, Malraux, on est en centre-ville et ça va s'adresser à des 30-40 ans qui commencent à avoir un peu d'argent, qui sont moyennement fiscalisés sur des investissements moyens de 300-400 000 euros, donc équivalent à du neuf. Le monument historique étant vraiment à part, on est sur des tickets d'entrée légèrement supérieurs, mais on est surtout sur une stratégie de chef d'entreprise qui vient de vendre des actifs ou vendre leur boîte ou des revenus exceptionnels. Et la personne en one shot, on n'est pas dans la philosophie de la SCPI, mais presque, ce serait une très très grosse SCPI, va affaler son revenu global par rapport à la participation de la part des travaux qu'il fait dans son investissement monument historique. Puisque, en plus, on a eu un phénomène très favorable depuis l'introduction du prélèvement à la source là, de 2018. Mm-hmm. On peut moduler aujourd'hui son prélèvement à la source directement grâce au monument historique sur la part des travaux. Donc une fois que l'opérateur a certifié que vous l'avez payé, vous pouvez moduler directement
on module soi-même et c'est quand même un gain de temps.
Ça, c'est magique depuis le 1er janvier 2020. Ouais. En 2019, Bercy mettait 3-4 mois à le prendre en compte. Aujourd'hui, c'est instantané. Donc, on a une vague de collecte entre janvier et mai qui fait que les gens anticipent leur déclaration parce qu'ils modulent par anticipation ce qu'ils vont payer comme impôt.
Et juste, les personnes qui font du monument historique, donc vous l'avez dit, c'est quand même des revenus assez conséquents. C'est des passionnés de pierres, de vieilles pierres ?
Alors, je vous dirais oui, mais ça va être une réponse un petit peu par défaut. Oui, parce qu'il y a des gens qui achètent en accession, déconnectés de tout objectif de rendement, puisque contrairement au Malraux, vous n'avez pas d'obligation locative dans le monument historique. Il y a une obligation de détention de 15 ans. Donc, il y a des gens qui savent qu'ils vont payer un peu cher le prix du mètre carré, parce qu'il ne faut pas se cacher. En Malraux, en monument historique, en termes de rénovation, on est toujours à peu près 10 à 15% plus cher que du neuf, s'il y avait du neuf équivalent comparable. Donc les gens savent et le payent, et payent ce prix du mètre carré en toute conscience. Donc qu'est-ce qu'il y a des... Oui, c'est des amoureux des belles pierres, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'effet massif de l'affolement du revenu global, parce que c'est un des seuls produits qui le permet dans toutes les classes d'actifs qu'on a en face de nous.
Oui, bien sûr. D'accord. Quentin.
Je me permets juste de ce que disait Loïc, qui est très intéressant, mais je pense que ça dépend quand on est investisseur. C'est toujours assez pertinent déjà de bien savoir ce qu'on attend de l'actif dans lequel on va investir. Est-ce que c'est pour le louer ou y habiter? Parce que c'est quand même deux stratégies différentes. Et effectivement, faut l'avoir en tête dès le début. Ou sinon, de se faire accompagner, de mettre sur une feuille blanche quels vont être les avantages et les inconvénients de mon investissement. Quel va être le rendement ou la réduction d'impôt que je vais avoir. Et tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer, ça peut être pertinent de me dire, selon ma situation, je suis chef d'entreprise, je reviens de revendre ma société, donc j'ai des revenus qui augmentent bien sur X années. Est-ce que c'est intéressant de faire du Pinel, oui ou non? Est-ce que c'est intéressant de faire du Malraux, du monument historique, du de Normandie? Et donc d'avoir la palette de dire, à l'instant T, selon ma situation, où est-ce que c'est pertinent d'aller placer un peu d'argent, de faire une acquisition, de changer de résidence principale, etc.
Et alors, vous, justement, il y avait une question. Je souhaiterais investir dans le neuf. Quels sont les premiers pas à avoir? Donc ça, c'est apparemment un auditeur qui veut faire un investissement, donc qui veut mettre en location le bien. Quels sont les premiers pas? Quel accompagnement je peux avoir?
Alors, il y a toujours, et c'est ça qui est intéressant aussi quand on investit dans les monuments historiques, ça peut être les emplacements. Donc ça reste un sujet important. Quand on investit dans le neuf et pour défiscaliser, et donc dans le Pinel, il y a des zones qui sont bien définies et c'est pas éligible sur 100% du territoire.
Oui, c'est ça, il faut le rappeler.
Donc effectivement, il faut se renseigner là-dessus. Ensuite, ça va pas être pour y vivre soi-même, donc c'est pas du tout dans une stratégie d'acquisition de sa résidence principale. C'est plus dans une visée patrimoniale, donc se constituer un patrimoine, et plutôt pour venir défiscaliser et donc réduire son montant d'imposition et ce qui va être versé chaque année. Donc une fois qu'on a dit ça, ensuite c'est vraiment de faire une étude quelle est ma capacité d'épargne mensuelle une fois que je me suis endetté et une fois que j'ai perçu des loyers. Donc de se dire comment ça se passe. Aussi, on parle souvent des avantages, mais aussi des inconvénients. Si jamais il y a de la vacance locative, est-ce que je suis en mesure de quand même faire face à mes échéances? Une fois qu'on a dit ça, on va faire des simulations. Et ça, pareil, il y a 12 000 outils qui existent en ligne, mais il y a aussi un certain nombre de professionnels. Nous, Unity.com, on sait comment ça marche. Il y a plein de professionnels sur le marché qui peuvent faire ça. Donc, de faire des premières simulations et de se rendre compte concrètement quelle va être l'enveloppe globale, quel va être l'apport qu'on va devoir faire, quelle va être la durée d'endettement, donc d'aller solliciter les bons partenaires bancaires. Et tout ça, on peut avoir un ordre d'idée assez facilement. J'ai tendance à croire, je ne pense pas que ça soit un défaut français, mais qu'on remet souvent au lendemain ces investissements. On se dit, bon, je m'en occuperai ce week-end, puis le week-end, on n'a pas le temps, puis cet été, en fait, au mois d'août, on n'a pas que ça à faire de faire des tableurs Excel et des maths. Donc, c'est un sujet sur lequel ça vaut le coup de s'y plonger une bonne fois pour toutes et voir si ça nous correspond. Et si jamais ça nous correspond, de franchir le premier pas, parce que c'est des investissements sur du long terme. Donc, il faut aussi prendre le temps de les commencer, pas forcément trop tard dans sa vie, pour en voir le fruit pendant sa carrière active, pendant sa retraite, etc.
Oui, il faut y penser, essayer d'y penser en fait, le plus tôt possible.
Et il faut mettre un peu la main à la pâte, ça prend du temps, et pas quelqu'un qui va décider pour vous quel est le placement qui vous convient. Je pense que chacun peut comprendre dans quoi il va placer son argent, et c'est très important. Il faut juste y allouer un peu de temps, comme on alloue du temps pour travailler, pour faire plein de choses.
Après, il y a aussi des préférences, on le voit bien, il y a des personnes qui préfèrent absolument l'ancien, d'autres le neuf, ça dépend aussi de la personne, je pense. Loïc, on parlait là des travaux, justement, on a une question d'un auditeur à ce sujet. Est-ce que, quand on fait du Malraux, du monument historique, est-ce qu'il n'y a pas de piège par rapport au montant des travaux? Est-ce que c'est bien fixé à l'avance?
Alors, tous les opérateurs dignes de ce nom et le législateur a tout prévu. Normalement, l'aspect foncier est très clair parce que vous passez devant un notaire. L'aspect travaux est... Si vous voulez, il y a deux catégories de biens, sans entrer dans le technique pour ne pas troubler l'esprit de nos auditeurs. Il y a ce qu'on appelle l'équivalent du VEFA. Donc c'est une loi très protectrice, c'est ce qu'on appelle l'AVIR. L'AVIR va prévoir pour les grosses opérations à peu près les mêmes garanties prudentielles et d'accompagnement de l'investisseur si jamais l'opérateur ou le promoteur qui est en face avait des défaillances. Bon. Pour les petits immeubles, dans le paradoxe toujours du législateur qui produit beaucoup de papiers et de lois, il a modifié les périmètres de réduction d'impôts, pas de réduction d'impôts, mais d'application de la réduction d'impôts de la loi Malraux en janvier 2017. Donc subsiste ce qu'on appelait, non pas la VIR, mais une association foncière urbaine libre, Jean Cafouille. Et cette mécanique, si vous voulez, elle est faite pour les petites missions. Un opérateur sérieux, pour répondre à votre question, Bérénice, il ne peut pas faillir parce que vous avez un contrat de travaux fixe et un foncier qui est fixe, qui va passer devant un notaire. Donc normalement, il y a 4 ou 5 opérateurs en France. C'est des gens sérieux, des gens qui ont pignon. Les plus vieux, on est le plus vieux, on a formé un peu la profession. Mais tous les opérateurs sont adossés à des grands groupes maintenant. Ils ont 25, 30 ans par rapport à nous qui en avons 50. Mais bon, aujourd'hui, la mauvaise période de ville où on a fait des expériences malheureuses, et il y en a eu, Bordeaux en particulier, il est vraiment très très loin derrière par rapport à l'accompagnement du législateur et des opérateurs professionnels. Adossé à des grands promoteurs sur une classe d'actifs d'anciens par rapport à du neuf, où ils ne veulent pas, si vous voulez, avoir d'une mauvaise image.
Donc ils font attention
au gros. Voilà. Parce que c'est un tout petit marché, on l'évoquait tout à l'heure, mais... De Normandie, on verra, parce qu'il y a très peu d'opérateurs qui ont du Normandie. Nous, on a 3 programmes, et je pense qu'on est les seuls en France à avoir, par hasard, du Normandie dans des villes qui sont Malraux, puisqu'on est éligible par rapport à une ville. Je disais, le monument historique, c'est un immeuble. Le Malraux, c'est un périmètre, mais le de Normandie, c'est une ville. Et la loi a eu du mal à définir le périmètre de ce qu'était une ville aujourd'hui. Maintenant, c'est très clair depuis les compléments qu'ils ont fait l'année dernière. Mais tout ça pour dire que tout tout est encadré maintenant, tout est bien bordé. Je veux dire, les gens peuvent pas se faire avoir, mais ça reste un marché tout petit.
Alors, sans se faire avoir,
c'est 2000 lots par an.
Oui, bien sûr, mais sans se faire avoir, est-ce que c'était pas forcément en se faisant avoir, mais une mauvaise expertise ou vous savez, parfois on voit pas un montant.
La seule problématique, alors ça c'est le problème de l'opérateur, c'est pas le problème de l'investisseur, ouais, puisqu'il a un contrat de travaux ferme. Non, la seule mauvaise surprise qui peut arriver à un investisseur à nos côtés, c'est une fouille archéologique qui dure et qui dure et qui dure et qui dure parce qu'on a trouvé trois petites cuillères.
Et du coup on repousse.
Ouais. Nous l'année dernière, même pendant le confinement et la pandémie, on a eu, à part Senlis dans l'Oise, qui a été le département, oui, le plus impacté avec le Haut-Rhin au début. Pourquoi ? C'est parce que c'est là où avait atterri l'avion qui venait de Chine avec tous nos amis militaires. Donc l'Oise a été très impactée. Donc on a eu, au niveau de nos artisans, pas mal de retard. Mais en Normandie et dans d'autres métropoles régionales, on n'a pas du tout. Donc la mauvaise surprise, c'est la fouille archéologique qui a été sous-évaluée. Parce que autre protection que je pourrais développer auprès de l'investisseur, si vous voulez, au-delà de l'achat des travaux, tout est fait sous l'autorité de l'architecte des bâtiments de France. Donc de la DRAC, donc quelque part du ministère de la Culture. Alors je vais très loin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est tellement encadré, contrôlé.
Tellement verrouillé, en fait.
Ouais, que... c'est très contrôlé, verrouillé, quoi. Je veux dire, un permis de construire en Malraux ou en MH, il a été analysé, reanalysé, validé. Il y a eu de la contradiction. Et il y a toujours une navette entre nos cabinets d'architectes et l'ABF correspondant à la
bien
ville
sûr,
dans l'investissement X ou Y.
Et Loïc, j'imagine de toute façon pour le groupe Bulle d'Invest, votre track record parle un peu pour vous. C'est ça qui est rassurant quand on investisseur
bien. C'est le privilège d'une vieille maison. On va parler au-delà du track record, mais moi je suis beaucoup plus simple. C'est que nos partenaires, on parlait des partenaires qui évaluent et qui accompagnent les investisseurs. Nous, on travaille à 99% avec des conseillers en gestion de patrimoine et tout. Et c'est vrai que la notoriété d'une vieille maison comme nous fait que, ou de maisons qui viennent de chez nous, parce que à une époque, il y a eu des switches et donc des jeunes entrepreneurs ont créé leur boîte et c'est ce qui a permis d'élargir le marché. Bon, c'est vrai que c'est rassurant par rapport aux investisseurs, par rapport aux références. Je me suis amusé à reconstituer depuis les années 70, sous forme de BD, tout ce qu'on a fait dans toutes les villes de France et tout. Bon, il suffit d'ouvrir un bouquin au-delà du net, ce qu'on a aussi sur le net, mais pour voir la traçabilité d'une belle maison comme nous, quoi.
Oui. Une question pour tous les deux. Hein. Est-ce qu'une quatrième vague aurait un impact sur le marché immobilier ? Est-ce que l'investissement immobilier est un investissement refuge ? Tiens.
C'est une très bonne question. Je ne souhaite pas une quatrième vague.
Là, on en parle.
Non, c'est des sujets bien évidemment d'actualité.
Qui sont sur la table et qui peuvent effrayer les investisseurs. Hein.
Alors, le constat, en tout cas, c'est dur de prévoir le futur, mais on peut constater le passé et ce qui s'est déroulé en France en 2020. J'ai envie de dire, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, dans le monde de la promotion immobilière, des permis de construire et des chantiers en tant que tels, ce qui a eu le plus d'impact l'année dernière, en 2020, c'est pas tant le Covid, c'est le décalage des élections municipales, du fait que, au lieu d'avoir des nouveaux maires en place au mois de mars, ça s'est plutôt déroulé en juin. On sait qu'ils sont déjà très attentifs pour délivrer des permis de construire un an avant cette période électorale. En juin, bien évidemment, il y a le mois juillet-août et ce n'est pas forcément le moment où on travaille le plus en France. Donc, on a attendu septembre. Donc, j'ai envie de dire ça, on a pris énormément de retard sur la production.
Les chiffres sont dans le rouge pour le 9, ouais.
Bien sûr, oui. C'était assez historique où au premier trimestre 2021, il y avait 80 000 logements neufs disponibles à la vente. C'était, je crois, notre niveau le plus bas depuis 2012. Donc, ça ne nous arrive pas tous les 4 matins. Donc, en tout cas, c'était plutôt ce décalage d'élection qui a eu un impact fort. Le Covid, l'impact qu'il a eu, c'est lors du premier confinement, où on était tous, entre guillemets, réfugiés chez nous. Plus personne ne sortait, il y avait les chantiers à l'arrêt. Donc là, il y a vraiment eu du coup du retard, du décalage. Mais les prix de l'immobilier n'ont pas tant évolué que ça. Un peu à la hausse et un peu à la baisse dernièrement.
Oui, on s'attendait à pire, en fait.
On s'attendait à bien pire et j'ai envie de dire depuis les années 2010, l'immobilier prend quelques pourcents chaque année. Donc c'est bien aussi un moment où ça s'arrête et c'est bien que ça redescende un petit peu.
Ouais.
Parce que quand ça fait que grimper, au bout d'un moment, ça fait une bulle et quand ça éclate,
ouais,
ça fait mal. Donc moi, une quatrième vague, honnêtement, m'inquiète pas particulièrement. J'ai le sentiment que Les notaires sont mieux équipés. Ouais. Vous parliez des conseillers en gestion de patrimoine.
Ils sont très bien équipés aussi.
Ils sont très bien équipés, mais avant le Covid, ils faisaient déjà beaucoup de choses de manière digitale. Ouais. Et donc là, ça a accéléré la tendance.
Là, ça a explosé. Hein. Vraiment, les CGP, on voit...
C'est clair, là où ça nous a tous servi, et surtout aux notaires, parce que je rebondis sur la profession la plus traditionnelle.
Oui, c'est vrai que les notaires avaient du mal. Hein.
C'était compliqué.
On nous a dit les notaires et les assureurs.
Ouais, ils ont eu beaucoup de mal. Ouais. Et la période... Même des opérateurs comme nous, j'allais dire, on a tout digitalisé, ouais. On a profité du télétravail.
Il a fallu franchir le cap.
On a tout digitalisé de mars à juin l'année dernière, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en profite énormément parce que tous les compromis, on envoie...
Deux clics.
Moi, j'ai dit à mon adjoint, le DocuSign est parti, je vois quand il est signé, ça arrive dans la nuit, ouais. C'est fabuleux. Alors qu'avant, on était pour des raisons...
Vous aviez peur, enfin, c'était quoi?
Non, mais c'était une question de papier vis-à-vis des notaires, vis-à-vis des ABF, de la DRAC et tout.
En fait, personne franchissait le cap. Quoi.
On était très papier encore. Ouais. On était sur des... En ancien, les compromis font 200 à 300 pages. Ouais. Parce qu'il y a tous les diags et tout. On vend durant l'État. Ça veut dire pour l'auditeur, c'est-à-dire qu'on vend un truc où il faut, par rapport à la protection de l'investisseur, faire beaucoup de paperasse.
Yep, ouais.
Beaucoup, beaucoup. Donc, signer 313 pages, alors qu'un DocuSign, c'est 16 pages avec une signature, un paraphe, et ça se met en... C'est fait en 3 minutes et demie, quoi. Ouais. Et on le voit tomber n'importe quand sur l'iPhone dans la nuit. On sait que M. Dupont a signé, c'est validé dans le matin.
Révolution.
Ça part chez le... Ouais, c'est une révolution, même dans la liaison avec les banques et tout. Donc, ça a été très positif, paradoxalement, cette période. Et moi, je rajouterais quelque chose sur Quentin. C'est que nous, curieusement, on a fait une des plus belles années l'année dernière parce que les gens avaient du temps de surfer, de se balader, de regarder sur Internet, de nous appeler. On était tous en télétravail, on avait tous mis nos portables à la maison. Et toute la collecte théorique, de touristes théoriques, et c'est pas respectueux ce que je dis, mais en réalité, de gens qui se baladaient sur les sites et tout, on les a récupérés à la rentrée de façon fidèle et tout. Et on a fait une très très belle année 2020, peut-être parce que les gens étaient disponibles pour analyser, se renseigner et dire quel est le bon produit.
Et prendre rendez-vous avec son CGP aussi, ouais, c'est ce qu'on a, vu, ouais, mais les CGP n'ont pas chômé pendant les confinements, ouais. Justement, les gens avaient du temps à la maison. Donc
les gens étaient plus disponibles.
C'est ça,
oui,
ils avaient le temps de s'occuper de leurs investissements, de décider, de... C'est vrai.
Les gens n'ont pas fait que bosser 10 heures par jour en télétravail. Par moments, ils s'évadaient. Et ils ont pensé, comme le disait justement Quentin, il faut le faire le plus tôt possible. Ils ont peut-être pensé à leur investissement et on en a récolté les fruits sur le dernier quadrimestre 2020.
Ben, je crois que c'est le mot de la fin, la conclusion. Le plus tôt possible et le mieux. Investissez dans la pierre, que ce soit le neuf, voilà, l'ancien, le monument historique. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Quentin Romet, président et cofondateur de Home Unity, et Loïc Guinchard, directeur commercial de Build Invest. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain Allo Radio Immo.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.